Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Quelques facultés bloquées, des tentatives au moins, des manifestations spontanées marquées par parfois des violences. La semaine dernière, une délégation reçue par le gouvernement, 10 jours après l'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon. L'émotion est toujours vive en France. Et la précarité et les difficiles conditions de vie des nombreux étudiants sont de plus en plus évidentes. La vie étudiante n'a jamais été synonyme d'opulence, mais de là à devoir choisir entre manger et se soigner, par exemple, et à ce que le travail pour financer les études finisse par devenir plus important que les études elles-mêmes, il y a peut-être quelques pistes d'amélioration à trouver. Que faire contre la précarité étudiante? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Orlane François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du syndicat étudiant, la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, qui est le premier syndicat étudiant en France. Et Élise Tenré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, chargée de mission à l'Observatoire national de la vie étudiante. D'abord, on va peut-être faire le constat ensemble, le constat de la précarité étudiante dont on parle beaucoup depuis le drame de Lyon, il y a quelques jours. Cela représente quoi? Cela se manifeste comment, Élise Tenré?
Alors d'abord, je crois qu'il faut bien avoir en tête que le monde étudiant est un monde qui n'est pas du tout homogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, donc qui est assez hétérogène et traversé par de multiples inégalités. Donc parler d'un étudiant moyen, c'est un peu compliqué.
C'est à l'image de la société, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Tout à fait. Et le deuxième élément, c'est qu'aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un monde qui est plus fragile, c'est-à-dire que le statut étudiant ne protège pas, en réalité, hein, puisque on pourrait avoir l'impression que les étudiants sont doublement protégés par la famille et par leur statut d'étudiant, qui font qu'ils sont dans des institutions qui les protègent. Et en réalité, on sait qu'un étudiant sur deux, par exemple, à 18 ans, est décohabitant, d'une part, et puis que les institutions ne sont pas toujours assez protectrices pour ces étudiants.
Orlane François, pour vous, vos adhérents, ça se manifeste comment quand ils vous en parlent, cette précarité?
Il y a des chiffres qui sont importants à mettre en avant. Il y a des études, hein, qui ont été réalisées par l'INSEE, par à l'époque François Chérec, lorsqu'il avait remis un rapport au Premier ministre, c'est qu'il y a 20% des étudiants qui aujourd'hui sont, par rapport aux repères, sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui en France. C'est 65% des étudiants qui avouent sauter des repas. C'est un étudiant sur deux qui est salarié ou bien en activité rémunérée à côté de ses études. Donc c'est des chiffres qui mentent pas. Et nous, on le voit sur les campus, c'est des jeunes qui sont dans des difficultés financières et psychologiques assez fortes.
Ça veut dire qu'ils ont des choix à faire, des priorités à définir, Élise Tenré, ceux qui sont en difficulté, bien sûr.
Alors, si on parle uniquement des étudiants salariés, par exemple, comme l'a rappelé Orlane François, c'est un étudiant sur deux qui travaille, il y a par exemple la moitié de ces étudiants qui disent travailler pour subvenir à leurs besoins. Et par ailleurs, un étudiant sur cinq, parmi ces étudiants qui travaillent, qui ont des activités qu'on qualifie de très concurrentes des études et qui, en réalité, vont affecter de manière négative leur trajectoire universitaire parce qu'ils font plus d'un mi-temps. Et donc, ils travaillent de manière... Il y a un effet de seuil, c'est-à-dire qu'ils travaillent suffisamment, ou en tout cas trop, par rapport aux contraintes de la vie universitaire.
Orlane François, en préparant cette émission, je m'aperçus que, je crois que c'était vous qui disiez qu'il faut, parfois, les étudiants doivent choisir entre se soigner et manger. Ça signifie quoi? Ils n'ont pas de mutuelle?
Alors ça signifie qu'en effet, sur la question de l'accès aux soins, il y a encore beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de complémentaire santé, donc qui ont des soins qui ne sont pas pris en charge à 100%, des soins qui sont pourtant nécessaires. Je parle des soins gynécologiques, je parle des soins chez un ophtalmo par exemple, et un étudiant qui du coup souvent va dire « je ne peux pas y aller ». Même si j'en ai besoin, parce que je n'ai pas les moyens ni d'avancer, ni au final de pas me faire rembourser parce que j'ai pas de complémentaire santé. Donc c'est des étudiants qui refusent le soin et qui n'en ont pas tout simplement les moyens. Et puis aussi, c'est des étudiants qui doivent faire des choix. Souvent, quand on est étudiant, on en a certains qui disent, moi j'ai pas les moyens pour si je mange trois fois par jour, ce qui est normalement une norme, si je mange trois fois par jour, j'ai pas les moyens pour payer mon appartement à la fin du mois, donc je fais un choix. J'ai pas les moyens de me chauffer correctement en hiver et donc je coupe mon chauffage. Ça, c'est des réalités qu'on voit parce que oui, sinon, à la fin du mois, on ne rentre pas dans ses comptes.
C'est des réalités qui sont quantifiables, qui sont quantifiées, Élise Tenré? Est-ce qu'on sait exactement combien en sont à choisir entre un poste et l'autre?
Oui, alors tout à fait, les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante, donc, qui ont lieu tous les 3 ans, la dernière a eu lieu en 2016, ont permis par exemple de mesurer que 13% des étudiants avaient renoncé à avoir un médecin pour des raisons financières. Donc même si la population étudiante qui est plus jeune se sent généralement en meilleure santé, on constate qu'il y a des fortes inégalités dans l'accès aux soins. Mmh. Et on sait aussi que c'est une population qui est particulièrement fragile du point de vue psychologique, et encore plus fragile que les jeunes du même âge en réalité. Mmh. Le fait d'être étudiant ne protège pas.
On se sent isolé parfois quand on est étudiant, Orlane-François ?
La précarité financière entraîne généralement une précarité sociale parce qu'il y a un isolement, parce qu'à côté de ses études on doit travailler et que du coup on n'a pas le temps d'avoir une vie sociale et une vie étudiante à côté, donc on est souvent isolé d'un groupe d'amis étudiants comme nous. Donc oui, ça renforce un sentiment d'isolement, et nous c'est quelque chose sur lequel on travaille très fortement parce qu'il y a un chiffre quand même qui est marquant. 8% des étudiants ont pensé à se suicider. C'est quasiment le double de la population normale, enfin du reste de la population aujourd'hui en France. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'on a une, ça a été dit juste avant, qu'il y a une population qui est fragile et qui est fragilisée par cette situation.
Quelle est la proportion des étudiants qui travaillent, Élise Tanré ?
C'est un étudiant sur deux.
Un étudiant sur deux.
46%.
46% qui travaillent donc pour se payer ses études, pour subvenir à ses besoins.
Oui, ou pour avoir une expérience professionnelle. Il y a différentes raisons. Mais parmi ces 46%, il y en a la moitié qui le font pour subvenir à leurs besoins. Donc vraiment pour compléter leurs ressources.
Oui, le job étudiant, Orlane-François, c'est quelque chose qui est assez traditionnel. Ça a toujours existé. Qu'est-ce qui a changé ? Ça prend de plus en plus de place ? Est-ce que la façon de faire travailler les étudiants a changé ? Ça leur rend les choses plus difficiles ?
Il y a deux éléments. Je pense qu'en effet, les étudiants travaillent de plus en plus en termes d'horaire de travail parce qu'ils vont chercher à être... Enfin, c'est la course à la paye la plus importante. Donc forcément, on va chercher à travailler plus pour gagner plus, ce qui est forcément pas bon pour des études à côté. Et puis surtout...
Ça rentre dans les esprits.
Voilà. Mais malheureusement, ce qui a aussi changé, c'est le type d'emploi aujourd'hui qui est pourvu et qui, dans le monde étudiant, on a de plus en plus d'emplois qui rentrent dans le cadre de l'ubérisation du travail et qui sont du coup des emplois qui sont, en plus d'empiéter sur le travail étudiant, qui sont de plus en plus précaires. Parce que les emplois des plateformes, pour ne pas les citer, sur les plateformes, sont des emplois où il n'y a pas de protection sociale adaptée. C'est-à-dire que si on a un accident du travail, qu'on tombe de son vélo, on n'est plus payé pendant 3 semaines parce qu'en fait, on ne peut plus travailler, on n'est pas protégé, il n'y a pas de protection derrière ça. Donc c'est en plus d'être des emplois où on travaille de plus en plus parce qu'il nous faut de plus en plus d'argent pour pouvoir vivre, on est moins bien protégé que sur des emplois qu'on pouvait connaître auparavant.
Ce phénomène d'ubérisation, si j'ai bien suivi vos propos, Élise Tanré, c'est cette année que se fait la nouvelle enquête hein, de l'Observatoire de la vie étudiante. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui remonte de cette enquête ?
Alors, pour la prochaine enquête, on va mesurer un peu plus ce phénomène, et notamment les étudiants qui se mettent en micro-entrepreneurs pour travailler. Mais c'est vrai que le travail étudiant, ça a beaucoup de facettes. Hein. Ça peut être des stages, ça peut être de l'apprentissage, ça peut être du job étudiant. Donc il faut bien distinguer de quoi on parle quand on parle du travail étudiant.
Mmh. Est-ce que les parents aident dans la mesure du possible ? C'est là aussi que se créent des inégalités, Orlane-François ?
Le public étudiant, c'est un public où il y a une grande difficulté à identifier quelles sont les ressources. Mmh. Et c'est parfois difficile d'identifier si oui ou non la famille va aider. Donc il y a des familles qui aident. Et ça, bien sûr que c'est un cas qui est assez courant. Mais il y a une fausse idée de se dire que parce que le foyer est aisé, il va forcément aider de manière forte ses enfants. Et inversement, parce que le foyer est précaire, il va très très peu aider ses enfants. Donc
alors qu'en fait, il va tout donner, c'est ce que vous...
Des fois, il y a des foyers qui se mettent encore plus en précarité pour permettre à leurs enfants de sortir eux-mêmes de précarité. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi j'ai galéré toute ma vie, j'ai pas envie que mon enfant il galère de la même manière que moi, donc je vais l'aider parce que je vais faire une priorité ses études. Mais du coup, c'est très difficile d'identifier quelles sont les ressources des étudiants. Donc c'est pour ça que nous, on souhaite qu'il y ait une réforme qui vienne vraiment s'adapter aux besoins même de l'étudiant et qu'on vienne prendre en compte ces disparités. Et parce que la famille aussi a évolué, comme on l'entendait avant. C'est souvent des familles qui sont recomposées, avec des parents qui sont parfois divorcés. Et ça, c'est pas assez bien pris en compte dans la manière dont on calcule aujourd'hui les montants des bourses.
Oui, Élise Tanré, c'est difficile dans vos études d'évaluer ça, cette partie d'aide des familles.
C'est très difficile, effectivement, parce qu'il y a une grande part de cette aide qui est en réalité non monétaire. Mmh. Et c'est difficile de faire compter aux parents tout ce qu'ils vont donner à leurs enfants. Alors la cohabitation, c'est un bon d'aide qui est vraiment très important et fondamental, parce que le budget étudiant, enfin le logement dans le budget étudiant est très important.
C'est 50%.
Mais voilà, mais il y a beaucoup aussi d'aides de la famille qui sont qui ne sont pas du tout monétaires. Par exemple, les repas, le fait de faire les lessives, d'accompagner, d'amener sur le lieu des études. Donc c'est vrai que dans des enquêtes comme celle de l'OVE, on a ces aides informelles, mais on a du mal à les quantifier, à donner un prix.
Le système des bourses tel qu'il existe actuellement en Lannes-François, est-ce qu'il est adapté à ces nouvelles façons de vivre des étudiants ?
Non. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait remarquer depuis plusieurs années maintenant. Il y a une nécessité de réformer la manière dont sont attribuées les bourses. Quels sont les critères qui sont utilisés ? Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des paliers de bourses par rapport à la fourchette dans laquelle on se trouve. On est sur tel ou tel palier, ce qui définit le montant qu'on touche tous les mois. Et on se rend compte qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que des fois, pour 5 euros en trop sur le revenu entre guillemets fiscal annuel, on perd 50 euros par mois. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait un vrai travail là-dessus. Quels sont les critères ?
Comment quelque chose de plus progressif.
Voilà, en fait, de très linéaire, pour que ce soit adapté à la situation très personnelle de chaque jeune.
Élise Tanré, ce système de bourse, il a été réformé quand, la dernière fois ?
Il a été réformé. En fait, la dernière réforme, c'est la fusion de l'échelon 0 et de l'échelon
0 bis. Et là, ouais, c'était la grosse réforme, c'était la création de l'échelon justement 0 bis et de l'échelon 7. C'était en 2013-2014.
Et ce système des bourses est adapté pour vous, Élise Tanré, ou est-ce qu'on peut l'améliorer ?
Alors, il est en partie redistributif, c'est ce qu'on voit dans nos enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi les étudiants qui présentent des signes de précarité, eh bien, les étudiants boursiers sont plus nombreux. Donc, sans doute, il n'est pas suffisant.
Oui. Est-ce qu'elles sont... alors, c'est quelque chose que j'ai lu en préparant cette émission. Dans quelle mesure ces bourses, Orlane-François, sont soumises aux résultats académiques ?
Il n'y a pas de... Alors, il y a plusieurs... C'est pas soumis aux résultats académiques. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire que sur une licence qui doit techniquement durer 3 ans, on a 4 droits aux bourses. C'est-à-dire qu'on a 4 ans où on a des bourses pendant notre licence.
Ça veut dire qu'on peut redoubler une année.
Voilà, une année.
Ouais, grosso modo, c'est l'idée.
C'est soumis dans ce sens aux résultats, c'est-à-dire qu'on a droit à un redoublement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut également avoir une vraie réflexion là-dessus. Parce qu'en France, on a un modèle où... pour réussir, il faut rentrer dans un cadre où il faut dire qu'il faut réussir sa licence en 3 ans et son master en 2 ans et ensuite rentrer dans le monde du travail. Il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on sorte de cette logique parce que il faut qu'on permette des parcours moins linéaires avec des réorientations, peut-être des doubles licences, des doubles masters. Et aujourd'hui, notre système ne prend pas ça en compte. Alors que dans d'autres pays européens, les moyennes d'âge étudiantes, c'est 26, 27 ans. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui pose problème là-dedans ? En France, on est encore dans un modèle où voilà, il faut faire 5 ans. Pas un de plus, parce que sinon on est considéré comme en échec, et ça pour nous c'est quelque chose qu'il faut revoir.
Élise Tanré, le fait, est-ce qu'il y a une tendance à vouloir, faire défiler les étudiants, les faire partir du système le plus vite possible ?
Alors je sais pas s'il y a un projet derrière, mais ce qui est sûr, c'est en tout cas dans la perception que les étudiants en ont, effectivement en France on est sur un système où il faut faire ça de manière très linéaire et ne pas faire de pause. Mais c'est aussi parce que il y a peu d'aménagements qui sont proposés pour les étudiants qui sortent du cadre. Par exemple à l'OVE, il y a une étude sur les étudiants parents à l'université et on voit qu'avoir des enfants et être étudiant, c'est difficilement compatible du fait d'une certaine rigidité des emplois du temps et des cursus. Donc voilà, il faut être dans la norme et ça c'est vraiment une caractéristique fondamentale du système français.
Vous parliez, Orlane-François, de réorientation. Pourquoi est-ce qu'il faut envisager des réorientations en cours de route tout en maintenant des droits ?
Parce qu'aujourd'hui, il faut... Quand on a 18 ans, on n'est pas forcément sûr de ce qu'on veut faire. Peut-être qu'on se trompe et c'est pas grave. On va peut-être aller passer 2 ans dans une filière et se rendre compte qu'au final, c'est pas ce qu'on a envie de faire et c'est pas grave parce qu'on aura acquis des compétences, on aura découvert quelque chose et on se sera rendu compte qu'au final, on a envie de découvrir autre chose et que notre envie, c'est d'aller dans une autre filière. Et très bien. Tant mieux qu'on en arrive à se dire qu'on a une liberté pour un jeune d'être capable d'identifier ses besoins et de se réorienter aux besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage parce que ça doit être une possibilité pour chacun.
Élise Tanré, je vous vois approuver.
Non, mais c'est une question d'envie, mais c'est aussi une question de trajectoire et d'origine sociale, par exemple. C'est vrai que on a peut-être sur des parcours plus linéaires quand on a des parents qui eux-mêmes ont fait des études supérieures et ceux qui vont peut-être avoir envie de se réorienter ou tenter d'autres choses sont des étudiants qui seront sur des trajectoires moins linéaires en lien avec leur origine sociale. Je pense qu'il faut être très attentif à ça.
C'est quelque chose que j'ai lu dans la préparation de cette émission. Orlane-François, j'entends des voix qui disent qu'il y a trop d'étudiants. Est-ce qu'il y a trop d'étudiants en France ?
je ne crois pas qu'il y ait trop d'étudiants, mais ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est il y a des
pour
objectifs.
Ça, je vous pose la question.
Non, il y a des objectifs qui sont affichés d'avoir 80% d'une classe d'âge qui arrive dans l'enseignement supérieur, qui sont des objectifs gouvernementaux qu'il faut aujourd'hui accompagner. En tout cas, nous on pense que c'est une bonne chose parce qu'on le premier rempart au chômage aujourd'hui, c'est le diplôme. Aujourd'hui, quand on a 25% des 18-25 ans qui sont au chômage, bah, il faut se poser la question de pourquoi. Et donc, nous, évidemment que c'est une bonne chose qu'il y ait autant d'étudiants. D'ailleurs, c'était une volonté de démocratiser l'enseignement supérieur, mais c'est ce qui vient justement poser la question de la précarité, parce que aujourd'hui, on a un public étudiant qui a évolué. En effet, on a une plus grande diversité de profils qui rentrent à l'université. On a des catégories sociales qu'on n'avait pas l'habitude de voir il y a quelques années dans l'université et qui, du coup, posent question sur l'accompagnement. Il faut mieux accompagner parce que c'est les classes les plus précaires accèdent à l'enseignement supérieur, ce qui est une très bonne chose, mais on ne les accompagne pas assez. Et c'est ce qui entraîne cette situation de précarité très forte sur les campus.
Ce discours de bah, peut-être qu'on a fait venir trop d'étudiants dans les facultés... Ceux qui sont concernés, les étudiants, donc au premier chef, ils peuvent l'entendre. C'est un petit peu compliqué, non,
d'expliquer ça. C'est tout à fait compliqué. Et je pense qu'effectivement, il faut penser à la question de l'insertion. Mm-hmm. Comme l'a très bien dit Roland François, c'est aussi quel profil on va accompagner. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ouvert l'université, notamment aux bacheliers professionnels et technologiques, qui aujourd'hui ont du mal à trouver leur place dans le système d'enseignement supérieur.
Les déficits et la dette sont lourds. Est-ce que ça, c'est un discours qui peut être entendu, Orlane François, par les étudiants ? Ça coûte cher de financer l'enseignement supérieur. Le pays est endetté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour vous, syndicats étudiants, et pour les étudiants, est difficile à entendre ?
Nous, le message qu'on a envie de faire passer, c'est que, et c'est prouvé d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui l'écrivons et qui le clamons, c'est que l'enseignement supérieur, l'éducation ne sont pas des dépenses pour un État, mais bien un investissement. C'est-à-dire que ça rapporte plus que ça ne coûte au final. Donc oui, c'est des investissements sur le long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gain immédiat au lendemain d'investissement, mais par contre, c'est prouvé. Et aujourd'hui, on va prendre un petit peu au pied de la lettre Emmanuel Macron qui a dit il y a quelques semaines qu'il fallait sortir de la règle des 3%.
Mais dit ça dans une
déficit.
Interview à The Economist, ouais, absolument.
Voilà, exactement, parce qu'aujourd'hui, il fallait que l'Europe soit forte et investisse beaucoup. Oui, nous, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Il faut sortir de cette règle, notamment pour ce qui est d'enseignement supérieur. Donc, allons-y, on est prêt à suivre là-dessus.
Élise Tanré, c'est un message pour apaiser les choses, ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Là, les étudiants, c'est difficile pour eux d'entendre ça. C'est un investissement, effectivement, sur l'avenir, la jeunesse.
Tout à fait. Et la question du financement, elle est liée aussi à la question des inégalités, puisqu'aujourd'hui, il y a des étudiants, par exemple, en classe préparatoire, qui coûtent plus cher que des étudiants à l'université. Il faut aussi s'interroger sur où est-ce qu'on met l'argent et par rapport à quel profil d'étudiants.
Et pour rebondir là-dessus, qu'avait proposé Emmanuel Macron en 2017 et qu'est-ce qu'il a fait après 2 ans et demi à la mi-mandat, Orlane François?
Alors,
du statut étudiant.
Je vais pas dire qu'il y a rien qui a été fait parce qu'il y a des éléments qui ont avancé en tout cas sur la question de la sécurité sociale, la suppression de la cotisation de la sécurité sociale annuelle. Par contre, on a du mal à voir quelle est la priorité de l'État sur les questions de jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, la question d'argent, ça revient souvent, on n'a pas les moyens d'investir. Enfin, on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent magique qui existe. Pourtant, on voit bien que quand le gouvernement a une priorité, ils arrivent très bien à trouver l'argent. Je fais l'exemple du service national universel, ce qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Quasiment l'ensemble des organisations de jeunesse sont contre. Ils décident d'y aller quand même. Bon, c'est un choix. Nous, on sera toujours contre. Mais ils investissent 1,5 milliard d'euros. Sur ce service national universel. Donc quand ils ont des envies, quand ils ont des priorités, l'argent, ils le trouvent. Donc nous, on dit arrêtez d'aller sur des sujets qui, pour le coup, ne vont pas aider la jeunesse et mettez des priorités sur ce qu'on demande, l'enseignement supérieur, l'éducation, parce qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'il y a des vrais besoins et sur ça qu'il faut investir.
Élise Tanré, il nous reste peu de temps, mais je vais pourtant vous poser une question difficile qui demanderait du développement, mais allons-y, essayons quand même. Est-ce qu'un revenu étudiant est possible ?
On verra ça après la prochaine enquête.
que demande la FAGE, Orlane François sur quoi vous voulez avancer très rapidement ?
Il y a
une
nécessité urgente, c'est d'investir et de réévaluer les montants des bourses. Et ensuite, c'est d'avoir une vraie réflexion sur un nouveau modèle d'accompagnement social et d'aide sociale étudiante.
Merci Orlane François, merci Élise Tanré d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Sigrid Azeroual à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui de Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.